dans une pas une caverne, mais un sous-sol, là, tu sais, là, mal entretenu, puis tout ça, là. Puis l'homme qui était prisonnier, il suppliait son agresseur de l'épargner parce que son agresseur avait un pistolet à la main, puis il s'apprêtait à y faire du mal, là. Puis là, ben, c'était une comédie, hein? Par un revers de situation loufoque, ça a donné que l'homme a pu se libérer de ses liens, puis de prendre le pistolet du main de son ravisseur. Et là, les rôles se sont inversés. L'agresseur était celui qui était à genoux, puis qui suppliait à chaudes larmes l'homme de ne pas lui faire du mal avec le pistolet. Alors, c'est une drôle de situation inversée, mais ça m'amène à vous parler de la supplication. La supplication, ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent aujourd'hui. C'est drôle parce que Luc, en quittant en avant, il dit ça. Ah ouais, la supplication, on n'entend pas ce mot-là souvent aujourd'hui. C'est écrit ici. On n'entend pas ça souvent en 2026. Supplier, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire souvent, hein? On voit ça surtout dans les films d'Hollywood, puis principalement, justement, les films d'action ou de suspense policier, là, quand il y en a un qui est menacé par un autre, alors là, il supplie l'autre de ne pas lui faire du mal. Ou des fois, on va voir ça aussi dans les films de romance où un des deux amoureux supplie l'autre, hein, de ne pas s'en aller, là. Et c'est classique dans le monde. Les chansons d'amour sont remplies de ça, tu sais. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Puis la fille, c'est I will survive, tu sais. Ben, c'est ça. Ainsi tourne le monde. Mais c'est quelque chose qu'on voit principalement dans les films, parce que supplier, ça demande surtout de s'humilier et peut-être être aussi un peu désespéré, tu sais. C'est deux choses qui, aujourd'hui, c'est pas populaire du tout dans notre société, hein? Sois fort, sois celui qui est au top. Fais-toi-en pas imposer par personne. Puis, donc, supplier, ça passe mal aujourd'hui. Mais ce matin, dans l'évangile de Marc, on va observer ensemble une situation qui a amené plusieurs personnes à supplier Jésus. Et on va tenter ensemble, en regardant le texte, de clarifier la raison de leur supplication. Puis on va voir ensemble quelle a été la réponse de Jésus à chacune de leurs supplications. Et qu'est-ce que nous, on peut apprendre pour nous aujourd'hui en rapport avec ça, le phénomène de la supplication, supplier. Alors on va lire ensemble Marc chapitre 5, du verset 1 à 20. Alors, je vous laisse tourner. Pour ceux qui n'ont pas le Bible, vous pouvez suivre à l'écran. Alors, Marc 5, versets 1 à 20. Alors, ça dit, les deux premiers versets, ils arrivèrent, c'est Jésus et ses disciples, ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Et ça, c'est le contexte. Ça, c'est la mise en situation. Jésus débarque avec ses disciples sur le territoire, ou sur le pays des Géraséniens. Géraséniens, c'est des gens, ce n'est pas des plantes, comme j'ai pensé longtemps. Géraséniens, des géraniums, c'est ça. Non, non, c'est du monde, c'est des gens. C'est un territoire qui est habité par des païens. Des païens, c'est-à-dire des non-juifs. Puis en effet, les Géraséniens, c'est des éleveurs de porcs, comme on le voit dans le verset 11 et le verset 14. Puis les Juifs, eux autres, considèrent le porc comme un animal impur, donc ils ne touchent pas à ça, puis ils en mangent moins encore, tu sais. Fait qu'il ne devait pas y avoir grand Juif qui se promenait dans ce territoire-là. Mais aussitôt sorti de la barque, Jésus est accueilli par un comité d'accueil. Il y a un homme qui, brusquement, vient à sa rencontre. Il n'est pas tout seul. Il y a un esprit impur qui est en lui, puis pas juste un. Le verset 9 nous raconte que c'est une légion de démon qui est en lui. Alors, suite à ça, Marc il va prendre une pause là, dans son récit, puis il va faire un flashback un peu en arrière pour nous donner un peu plus de détails sur l'historique de cet homme-là. Verset 3 à 5, il dit « Il avait sa demeure dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. » Je fais une parenthèse, pas dans mon texte, mais c'était drôle pareil, il faut que je le dise. La première retraite de fin de semaine que je l'ai faite avec des ados dans l'église. On a fait ça chez Nathalie, en arrière, puis avec un feu de camp, tu sais, puis comme chaque bon feu de camp, tu sais, ça vient avec des histoires de peur d'habitude, hein. Ben, moi, je voulais avoir. Oui, oui, c'était des... Non, c'était des jeunes ados, là, à peu près entre 12-14 ans, là, tout ça. Et là, je me mets à raconter cette histoire-là, ce passage-là. Mais je le mime en même temps et tout ça, tu sais. Puis, j'avais une leçon que je voulais leur apprendre. Parce que je savais qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui aimaient justement les histoires de peur, de sorcières, puis... Oui, il avait l'air de s'intéresser un petit peu à l'occulte, donc je voulais leur enseigner de ne pas s'intéresser à ces choses-là, de ne pas aller dans ce sens-là. Puis ça, c'est un événement qui est relaté dans plus qu'un évangile, mais j'ai choisi celui-là parce qu'il donne beaucoup plus de détails sur le démoniaque. Puis, effectivement, il y en a eu qui ont eu la chienne, ça. J'avais atteint mes deux objectifs. Okay, je ferme la parenthèse. Alors, cet homme-là était habité par des esprits impurs qui le dominaient puis depuis longtemps. Et les esprits impurs le faisaient errer dans les montagnes et dans les tombes. Puis, en fait, personne, parmi les Gérasiniens, personne ne s'approchait de lui parce qu'il était dangereux. Il était incontrôlable, il était indomptable. En fait, il possédait une force surnaturelle qui ne venait pas de lui, évidemment. C'est les esprits impurs à l'intérieur de lui. Puis les démons le tourmentaient puis lui faisaient du mal. Pareil comme on maltraite un jouet sans valeur. Tu sais, peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu Histoire de jouets, là, Toy Story. Tu sais, le voisin, là, le jeune voisin, là, méchant, là, qui fait Sid, oui, c'est ça, qui fait péter ses soldats et ses jouets avec des pétards et des feux d'artifice. Ben, c'est un peu la même façon ici là, que les démons, ils traitaient cet homme-là. Ils prenaient des pierres et ils se maltraitaient, tout ça. Donc, après avoir établi la mise en situation, Marc y reprend ensuite son récit à partir du verset 6. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas! » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur! » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous y entrions. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipitait du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et vinrent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque ainsi qu'au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Et comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. Alors, on va prier avant de continuer. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ta parole qui nous fait découvrir qui tu es, ce que tu as fait et qu'est-ce que tu es venu faire, Seigneur, pour nous. Et comment, Seigneur, ça change nos vies aujourd'hui. Alors, par le Saint-Esprit, nous te demandons que tu ouvres nos cœurs, qu'on soit réceptifs à ce que tu as à nous enseigner aujourd'hui de manière personnelle, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, dans ce récit, Marc, il commence, évidemment, par présenter les acteurs de cette scène. Évidemment, il y a Jésus qui est l'acteur principal, et il y a les disciples de Jésus qui sont là, mais dans cette scène-ci, ils font partie du décor, parce qu'on n'entend pas parler d'eux, ils font rien. Puis, il y a l'homme possédé, ainsi que les démons, et finalement, il y a les habitants de la région. Il y a les pourceaux qui sont là, mais ils sont accessoires dans l'histoire. Dans cette histoire, tout le monde supplie Jésus. Les démons supplient Jésus, les gens du pays supplient Jésus, et celui qui était possédé des démons, lui aussi, après supplier Jésus. Mais comment Jésus a répondu aux supplications de chacun? C'est ce qu'on va voir, sauf qu'avant, on va se poser une question. On va répondre à une question qui est vraiment importante, parce que c'est important d'établir c'est quoi qui était l'idée de l'auteur, qui est Marc, en racontant cette histoire-là. Cette histoire s'imbrique dans le fond dans une série d'événements qui est arrivée en Marc, chapitre 4, verset 35, et qui se termine à chapitre 5, verset 43. Le premier événement raconte, dans le fond, la traversée de Jésus et de ses disciples pour se rendre sur le territoire des Géraséniens, alors qu'il y a eu une grande tempête qui s'est levée et lui, il dormait là, à l'avant du bateau. Le deuxième événement, bien, c'est celui d'aujourd'hui, dans lequel Jésus rencontre le démoniaque. Et le troisième événement, c'est quand Jésus retourne de l'autre côté et... Il guérit une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui aussi ressuscite la jeune fille de Jaïrus qui était morte. Donc, soit dit en passant, même si c'est à côté, Jaïrus, qui était un chef de synagogue, a lui aussi supplié Jésus pour sa fille. Et dans cette séquence de récit, l'auteur avait pour but, dans le fond, de démontrer la seigneurie puis l'autorité divine de Jésus. Jésus, il fait cesser la tempête, il chasse les démons, il guérit un malade, puis il ressuscite un mort. Fait que Marc démontre bien ici que Jésus, c'est véritablement le Fils de Dieu, le Messie qu'on attend, et qu'il a le pouvoir et l'autorité totale sur les éléments de la nature, sur les forces des ténèbres, sur la maladie et sur la mort, et aussi sur ses disciples. Jésus est le Christ, le Seigneur, Dieu, le seul et unique. Alors j'aimerais que vous vous rappeliez de cette idée-là, de l'autorité de Jésus, en continuant notre étude ce matin. Alors maintenant, ça, c'est mon premier point. Celui ou ceux qui supplient Jésus, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi la raison de leur supplication? Bien, premièrement, les démons, ils ont supplié Jésus de ne pas les chasser en dehors du pays, mais de les envoyer dans ces 2000 pourceaux qui paissaient près de la montagne. On pourrait spéculer bien longtemps sur la raison pour laquelle les démons, ils voulaient aller dans les pourceaux. Mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien, la Bible ne nous le dit pas. À part de dire qu'ils voulaient fuir Jésus parce qu'ils ne voulaient pas être chassés hors du pays, puis eux-mêmes disaient qu'ils ne voulaient pas être tourmentés par Jésus. Les gens du pays, eux autres, ils suppliaient Jésus de quitter leur territoire. Eux autres voulaient que Jésus s'en aille. Parce qu'après avoir été témoins de ce que Jésus avait fait avec le démoniaque, puis comment... ils avaient perdu ce gros troupeau de 2000 pourceaux. Les habitants ont eu peur. Ils ont reconnu en Jésus quelqu'un qui avait le pouvoir et l'autorité de dominer des forces surnaturelles qu'eux, ils croyaient indomptables. Mais aussi en voyant le pourceau se jeter à la mer puis se noyer, ils ont certainement dû voir leur gagne-pain s'envoler en fumée. Fait qu'ils craignaient Jésus puis ils voyaient en lui une menace puis un trouble fait. Et le démoniaque, après avoir été délivré de la légion de démons qui l'habitait, lui a supplié Jésus d'embarquer avec lui pour le suivre comme disciple. Lui avait reconnu Jésus par un événement extraordinaire. Il l'avait reconnu comme son sauveur et comme son Seigneur. Puis il voulait être avec lui, il voulait rester avec lui. Et son cœur appartenait maintenant à Jésus, puis il le reconnaissait comme son maître. Il avait été possédé par des méchants maîtres pendant tellement longtemps, et là, il avait reconnu en Jésus son nouveau maître. J'imagine à quel point cet homme-là, il devait être reconnaissant de ce que Jésus avait fait pour lui. Car pour j'ai pas eu souvent affaire à ça, des gens aux prises avec des démons. Mais de ce que j'ai vu, c'est même si la personne n'est plus elle-même, elle reste consciente de ce qui se passe. Fait, imaginez comment cet homme-là a dû souffrir. Donc, on voit dans ce récit des démons supplier Jésus, des gens supplier Jésus et un nouveau disciple de Jésus qui supplie Jésus. Alors, deuxième point, quelle est la réponse de Jésus à ces trois supplications? Bien, Jésus, qui ordonnait à ce moment-là aux esprits un peu de sortir de cet homme, bien, il a finalement acquiescé à leur demande. Il leur a permis d'entrer dans les 2000 pourceaux, entraînant ainsi la perte totale de tout le troupeau qui s'est noyé en se jetant dans la mer. Ça m'amène quelque chose d'intéressant parce que le Seigneur nous a donné l'autorité spirituelle hein, sur les forces des ténèbres. On est tous convaincus de ça. En tant qu'enfant de Dieu, là, on revêt son autorité. Mais ici, c'est dit qu'en même temps que Jésus disait aux démons de s'en aller, les démons restaient là et étaient à genoux puis suppliaient Jésus de ne pas les faire partir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pratico-pratique pour nous? Ça veut dire que si tu as affaire à un esprit malin, le Seigneur t'a donné autorité sur lui, puis il n'aura pas le choix. Il va partir, mais ça se peut qu'il s'astine un peu. Alors, s'il s'astine un peu, prends pas les quételles, n'aie pas peur. OK? Fais juste continuer, puis il va finir par s'en aller, il n'a pas le choix. Je ferme la parenthèse. Donc, Jésus il a accepté aussi de répondre à la supplication des gens qui lui demandaient de partir du territoire parce qu'il avait peur de lui puis il craignait que Jésus était pour faire le trouble dans le pays. Et finalement, Jésus a refusé de répondre à la supplication de son nouveau disciple, de le prendre avec lui dans la barque. Mais il lui a donné l'ordre, par contre, de rester parmi les siens pour qu'il soit un témoin de la délivrance que Dieu a fait pour lui, puis qu'il partage la bonne nouvelle de cette nouvelle vie que Jésus lui avait donnée. Fait que c'est intéressant de voir que dans ce récit, le seul qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait en suppliant Jésus, c'est le nouveau disciple de Jésus. Parce que les autres, que ce soit les esprits impurs ou les gens du pays, eux autres, ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé. Et là, je me mets à la place un peu du nouveau disciple, puis je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'aurais tendance à croire que Jésus serait plus enclin à répondre à la supplication de son disciple qu'à répondre à la supplication de gens qui n'ont rien à foutre avec lui et encore moins à des démons. C'est quand même spécial. D'ailleurs, c'est la deuxième incidence qui est relatée dans toutes les Écritures où Dieu acquiesce à la demande d'un ange déchu. La première se trouve dans Job chapitre 1, verset 12 et 2, verset 6, où Dieu permet à Satan de faire du mal à son serviteur Job. Mais même là, c'est pas parce qu'il n'aime pas Job et que Dieu est méchant, mais c'est parce qu'à travers l'épreuve qu'il va subir, Dieu a quelque chose à apprendre à son serviteur Job. Fait que Dieu est pas mal intentionné là, en laissant ça arriver. Mais à part de ça, on voit nullement ailleurs dans les Écritures où Dieu ou Jésus accorde quoi que ce soit à Satan et à ses démons. Donc, pourquoi Jésus a répondu favorablement à la supplication des esprits impurs puis des gens du pays, mais pas à son disciple, à son nouveau disciple? Ben, je suis content que vous posiez la question. Jésus a répondu à la supplication des esprits impurs, probablement parce que dans son plan, ça ne faisait pas grande différence qu'il soit chassé hors du pays ou qu'il entre dans le troupeau de pourceaux. Parce que en venant dans le territoire des Géraséniens, Jésus avait un objectif très précis. Jésus ne faisait jamais rien pour rien. Hein. Tout comme quand il est allé dans le territoire de la Samarie, c'était pour rencontrer une Samaritaine sur le bord d'un puits. Bien, en venant dans le territoire des Géraséniens, Jésus savait qu'est-ce qui était pour arriver, mais il y avait un plan, il y avait un objectif. Son objectif premier, c'était de sauver et de délivrer ce pauvre homme de l'oppression démoniaque et d'en faire un serviteur, un disciple qui lui serait fidèle. C'était ça son objectif. Et Jésus a répondu favorablement aux explications des gens du pays parce qu'il savait qu'à cause de leur peur, à cause de leur méfiance, et probablement aussi parce qu'il était un juif et qu'eux ne l'étaient pas, il pourrait probablement pas faire grand-chose parmi eux, qu'ils ne l'écouteraient pas et qu'ils n'entendraient pas la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais puisque Jésus avait atteint son objectif principal, il n'avait plus besoin de rester présent en personne dans le pays des Géraséniens. Et finalement, Jésus n'a pas répondu favorablement à la supplication de son nouveau disciple, parce qu'il y avait un plan puis une mission. Et pour que ce plan fonctionne et que sa mission s'accomplisse, il devait laisser son nouveau disciple parmi les Géraséniens. Puisque Jésus, lui, ne pouvait pas rester, bien, son disciple, lui, il était pour être son témoin parmi les gens de sa patrie. Il allait témoigner puis introduire le royaume de Dieu sur le territoire des Géraséniens à la place de Jésus. Bon, là, soudainement, on dirait que ça fait du sens. Alors, voyez-vous, tout le monde parmi les Géraséniens, ils connaissaient le démoniaque qui errait dans les tombes. Tout le monde avait entendu l'histoire et tout le monde avait peur de lui. Tout le monde savait qu'il n'avait plus sa raison, cet homme-là, puis qu'il était une cause désespérée, une âme en tourment et perdue. Et le fait que cet homme a retrouvé tout son bon sens parlait plus fort à ces gens qui le connaissaient bien que toutes les paroles que Jésus, un étranger, un juif en plus, aurait pu leur dire. Ce nouveau disciple a accompli la mission de Jésus, que Jésus l'a envoyé faire. Il est allé voir sa famille, il est allé voir les siens, il est allé voir les gens de sa patrie, et il a même prêché cette bonne nouvelle-là dans toute la région de la Décapole. Il a fait même plus que ce que Jésus y avait demandé. Puis il a tout simplement témoigner de la grâce que Dieu lui avait accordée et de cette nouvelle vie qu'il avait reçue en Jésus. Et vous savez quoi? Cet homme a probablement eu plus d'impact dans la vie de ses concitoyens que Jésus aurait pu en avoir eu par lui-même. Alors, troisième point, que peut-on retirer comme leçon de ce récit de l'Évangile de Marc? Il y a plusieurs points qu'on peut retirer, mais j'en ai énuméré 5. Si vous en trouvez d'autres, super, merci Seigneur. Je suis sûr qu'on peut trouver encore plein de trésors dans ce passage-là. Alors, premièrement, Jésus est pleinement au contrôle de toutes choses. Il est en contrôle des circonstances, il a autorité sur les forces de la nature, il a autorité sur les forces des ténèbres, il a autorité sur la maladie et sur la mort. Il a autorité sur les gens aussi et évidemment sur ses disciples. Et Jésus, il sait ce qu'il fait. Non, je ne le dirai pas. Mais je connais des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Je vais m'arrêter là. Mais Jésus, il avait un objectif et un plan pour chacune de nos vies. Puis il veut s'assurer que son plan va s'exécuter à la perfection dans nos vies, malgré nos péchés, malgré nos faiblesses et malgré nos peurs. Deuxièmement, la supplication, là, ça fait partie de la vie de prière d'un enfant de Dieu. Parce qu'en fait, la supplication, c'est quoi? C'est une forme intense de prière parce qu'on s'adresse avec Dieu avec intensité pour quelque chose qu'on juge tellement important pour nous. La parole de Dieu nous encourage à prier pour nos besoins, les besoins des autres. Elle nous encourage aussi à intercéder en faveur des gens et pour les situations et les événements. Mais elle nous encourage aussi souvent à adopter une posture de supplication envers le Seigneur. Combien de fois vous allez lire ça, tombant à genoux, suppliant le Seigneur? C'est de la supplication. Puis, il n'y a pas de mal à s'humilier, à être intense avec le Seigneur dans nos prières, puis prier de tout notre cœur, ou comme en bon québécois, prier avec nos tripes, comme si on était désespéré, comme si notre vie en dépendait. Rappelez-vous la parabole de la veuve et le juge inique. À tous les jours, elle se présentait devant le juge, puis elle suppliait le juge de lui faire justice. Puis lui, finalement, qui était inique, qui ne craignait pas Dieu, puis qui ne craignait pas personne, il a dit, « Ben, elle va t'arrêter de me casser les oreilles? Je vais faire justice, je vais avoir la paix. » Imaginez à ce temps maintenant Dieu qui est votre Père, qui vous aime. Dieu ne méprise pas les cœurs brisés et meurtris. Et même que parfois on a besoin d'être désespéré pour se tourner vers lui, puis enfin comprendre que sans lui, on ne peut rien faire. Troisièmement, ben, il n'y a pas seulement que les chrétiens qui s'adressent à Dieu avec la supplication. Il semblerait que le Seigneur répond aussi à la supplication, pas juste de ses enfants, mais aussi de personnes, de d'autres personnes dans certaines circonstances. Parce que je ne sais pas pour vous, mais il y a comme une tendance de penser que l'exaucement aux prières, là, ça c'est exclusif aux chrétiens. Parce qu'on est des enfants de Dieu, Dieu répond à nos prières, mais le reste du monde, non. Mais ça, c'est pas vrai. On a la preuve ici, c'est pas vrai. Même quand il accorde sa grâce aux méchants, Dieu a un objectif, il a un plan, il a une raison de faire ce qu'il fait. Alors, pensons donc pas qu'on a l'exclusivité sur la prière, parce que ça serait en fait diminuer la grandeur, l'amour et la grâce de Dieu. Alors, faisons pas ça. Quatrième leçon. Le Seigneur n'est pas tenu d'exaucer nos prières et nos supplications et nos jeûnes à nous qui sommes ses enfants bien-aimés. S'il n'exauce pas certaines de nos prières, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il y a d'autres projets pour nous. Et ce n'est pas des projets de malheur, c'est des projets dans lesquels il va se glorifier à travers nous. Et ces projets ont pour but de nous faire grandir, nous, à travers l'épreuve, de faire grandir dans notre foi et de faire avancer l'expansion de son royaume aussi à travers nous. Pareil comme ce jeune nouveau disciple qui a proclamé l'Évangile en restant. S'il ne serait pas resté là, c'est toute cette région-là qui n'aurait pas entendu parler de l'Évangile parce que Jésus n'avait pas accès par lui-même. Donc, si Dieu ne répond pas à certaines de vos prières, s'il vous plaît, découragez-vous pas. Dieu n'a pas cessé de vous aimer, mais il a préparé autre chose pour vous et à travers vous. Je donne un exemple. Une dame qui se posait la question, puis elle en voulait à Dieu, « Pourquoi, Seigneur, tu as laissé mon oncle m'agresser puis me violer? » C'est une question légitime. Plusieurs années sans réponse. La dame a fait des thérapies, a fait les forteresses, renversant les forteresses. Elle a finalement réussi à pardonner à son oncle de tout son cœur. Et aujourd'hui, cette dame-là, à l'aide des autres femmes qui ont passé par la même tragédie, elle n'aurait jamais été capable de faire ça si elle-même, elle n'aurait pas passé par ça. Puis qu'elle n'aurait pas fait le processus de pardon avec le Seigneur. Et là, maintenant, elle sert le Seigneur de cette façon-là. D'ailleurs, Dieu a toujours une raison pour toutes choses, même les mauvaises choses qui nous arrivent. Puis il ne le fait pas parce qu'il ne nous aime pas. Non, au contraire, parce qu'il nous aime. Il veut nous amener plus loin avec lui. Alors, en conclusion, lisons ensemble Éphésiens 6, verset 18. Ça dit, « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de quoi? De supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Alors, si vous aviez encore un doute que la supplication faisait partie de la vie de prière d'un enfant de Dieu, bien là, j'espère que vous en avez plus avec un passage comme ça. Jésus a autorité sur toutes choses. Il nous encourage à faire des prières, des supplications. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il nous écoute. Et si on sait qu'il nous écoute, on sait qu'on a déjà la chose à laquelle on a demandé. Et s'il ne nous exauce pas, rappelons-nous, ce n'est pas parce qu'il ne nous a pas entendu ou parce qu'il ne nous aime pas, mais c'est parce qu'il y a ses raisons, c'est des bonnes raisons dans lesquelles le Seigneur va se glorifier à travers nous. Excusez. Le Seigneur aplanira pas toujours tous les obstacles qui vont se dresser devant nous. Parfois, oui, gloire à Dieu, on a entendu des bonnes nouvelles aujourd'hui. Des cancers qui sont partis, hein, gloire à Dieu. Des dimanches qui sont revenus disponibles, hein. Des bonnes nouvelles. Mais parfois, Dieu, il aplanit pas l'obstacle. Ça va arriver. Mais quand il permet ça, s'il veut nous faire grandir, il veut se glorifier, puis il veut nous utiliser pour son royaume. Il veut nous amener plus près de lui, puis il veut nous amener plus loin dans notre marche avec lui. Alors, n'ayons donc pas peur de s'humilier et d'adresser nos supplications à notre grand Dieu d'amour et de grâce. D'ailleurs, il y a un autre passage dans les Écritures qui dit « L'humilité précède la gloire ». Puis l'orgueil précède la chute. J'aime bien mieux rester dans l'humilité. Et vous? Prions. Oui, Seigneur Jésus, tu nous encourages à prier avec tout notre cœur, avec toutes nos tripes, Seigneur. Et ça implique des fois, justement, de, comme la Bible a dit, répandre nos entrailles devant nous et te supplier. Et c'est correct, Seigneur. Tu ne méprises pas un cœur qui est meurtri. Au contraire, un cœur qui est dans la faiblesse, tu le recueilles, Seigneur. Tu l'entoures de ton amour. Et c'est là qu'il y a des grandes choses qui se passent. Parce que c'est là que tu te lèves en héros et que tu sauves, Seigneur. Alors apprends-nous à supplier quand c'est le bon moment, quand c'est le moment opportun. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.